France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quoi que décide Londres, ils tenteront tout de même la traversée vers l'Angleterre. Parole de candidat à l'exil dans ce journal. Après l'adoption de la loi britannique permettant l'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, la mesure, vous l'entendrez, ne les dissuade pas. Nous serons aussi en Argentine. Le président Milei a-t-il franchi une ligne rouge en s'attaquant au budget des universités? Marée humaine ces dernières heures à Buenos Aires, manifestation monstre et chute de popularité soudaine du chef de l'État. Dans ce journal aussi, les couvre-feux pour mineurs sont-ils vraiment légaux? Une aide financière en urgence pour les EHPAD au bord de l'asphyxie. Et ils rechantent ensemble un demi-siècle plus tard. Nous avons assisté aux retrouvailles entre d'anciens petits chanteurs à la Croix de Bois.
Et au micro de Sonia De Villers aujourd'hui, Frédéric Valletoux, le ministre délégué chargé de la santé, et de la prévention.
France Inter.
Le premier ministre britannique en est persuadé.
Envoyer les migrants illégaux au Rwanda permettra d'éviter des catastrophes dans la Manche en dissuadant les traversées. Rishi Sunak a d'ailleurs réagi hier à un nouveau drame, 5 morts dont une fillette, en estimant que cela montrait l'importance de sa loi. Depuis son adoption définitive avant-hier, elle suscite pourtant des réactions consternées de l'ONU à l'Église en passant par les ONG. Et sur les côtes françaises du Nord, la possibilité d'être expulsé vers le Rwanda n'entame pas la détermination des candidats à l'exil en Angleterre. Sandrine Etoua-Andegue l'a constaté hier soir à Lone Plage.
Une association vient distribuer vêtements et chaussures aux femmes du campement de Lone Plage. Manmat, un Indien en France depuis quelques mois, vient remplir 2 jerrycans d'eau. L'Eldorado britannique, c'est sa priorité numéro 1. Pour assurer un avenir meilleur à nos familles, à nos enfants. Et ni les 5 morts après le naufrage d'hier, que son ami et lui qualifient de terribles nouvelles pour tous les migrants, ni la perspective d'être envoyé au Rwanda ne les arrêteront. Ils ont déjà tenté 3 fois de passer en Angleterre et parie que le projet de loi ne sera pas appliqué. Les Anglais ne vont jamais laisser ça arriver. Déjà que le gouvernement britannique nous prouve que c'est un pays sûr. Il y a beaucoup de problèmes de violation des droits humains. En tout cas, moi, dès que la météo est bonne, je retente d'aller en Angleterre. Je prends le risque. Dieu me sauvera. Kassaoy, lui, a très peur d'être envoyé au Rwanda. Je ne connais rien à ce pays. On va quand même attendre un peu avant de retenter de traverser. Mais la perspective d'être expulsé en Érythrée, son pays d'origine, le terrifie davantage. C'est une dictature. Dès qu'il aura assez d'argent pour le passeur, il dit qu'il reprendra la mer vers l'Angleterre pour la 4e fois.
Sandrine Etoua-Andegue dans le Nord pour Inter. Joe Biden veut envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine dès cette semaine, après l'adoption finale cette nuit par le Sénat et donc le Congrès américain du giga plan d'aide à Kiev, près de 60 milliards d'euros d'armement, de matériel. Remerciements immédiats du président Zelensky qui compte dessus, dit-il, pour rétablir plus rapidement une paix juste. Le Sénat américain a aussi validé l'ultimatum lancé à TikTok. Le réseau social sera interdit aux États-Unis s'il ne coupe pas les liens avec sa maison mère chinoise. Au moins 150 000 manifestants dans les rues de Buenos Aires, des centaines de milliers dans les autres villes. L'Argentine vient de vivre ses cortèges les plus importants depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, le président ultralibéral, étudiant, enseignant dans la rue pour défendre les universités publiques qui craignent la faillite. Le gouvernement a décidé de reconduire pour 2024 exactement le même budget qu'en 2023 sans tenir compte de l'inflation. Près de 300% sur un an. Le reportage de notre correspondante Caroline Vic.
Sur la place de Mai, des centaines de milliers de personnes de tous bords idéologiques et au beau milieu de la foule, Paola, étudiante en sociologie.
Je suis inquiète, mais on a de la force pour lutter. L'Argentine a renversé des dictatures, les femmes ont conquis le droit à l'avortement. On ne se laissera pas gagner par la peur.
Sur les réseaux sociaux, Milei a qualifié les manifestants de gauchistes endoctrinés. Mais ils ne se sont pas découragés comme Vanina Toscano, professeure à la faculté de médecine, fatiguée par les conditions d'enseignement.
Il n'y a pas d'argent pour des bourses d'étudiants ou de chercheurs, ni pour l'électricité, la clim, le chauffage. Tout est réduit au minimum. Dans tous les domaines, on subit les conséquences.
L'université de Buenos Aires, fondée en 1821, a vu passer des présidents et des prix Nobel, mais le prestige ne paye pas les factures. Et sans argent, les facultés pourraient fermer. Camila, étudiante en médecine.
Nous sommes nombreux à être enfants de travailleurs.
Si la fac ferme, on perd la possibilité d'accéder à une éducation gratuite et de qualité. Et moi, par exemple, je devrais arrêter mes études de médecine.
Toucher à l'éducation publique semble être la limite des Argentins. D'après les sondages, 85% de la population condamne la décision de Milei, dont la popularité a brusquement baissé 4 mois seulement après son élection. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Une élection présidentielle aux allures de référendum aujourd'hui en Macédoine du Nord. Faut-il accepter ou non les conditions imposées par l'Union européenne pour intégrer les 27? Le petit pays des Balkans, 2 millions d'habitants, est candidat à l'UE depuis 2005. Processus interminable. Le candidat social-démocrate sortant veut immédiatement changer la constitution pour convaincre Bruxelles d'accueillir la Macédoine du Nord en son sein. Son adversaire de droite préfère encore attendre. En France, contre la délinquance des mineurs, des maires tentent par le couvre-feu. Coup sur coup, deux grandes villes annoncent qu'elles vont l'imposer. À Béziers, le maire proche de l'extrême droite, Robert Ménard, a déjà signé l'arrêté. Les moins de 13 ans n'ont plus le droit de sortir entre 23h et 6h dans une partie de la commune. À Nice, Christian Estrosi veut faire de même à compter du 1er mai. Tandis qu'en Guadeloupe, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a ordonné, ce couvre-feu à Pointe-à-Pitre. Mais Delphine Evenou, que dit vraiment la loi sur ces dispositifs? La justice pourrait-elle les retoquer?
Robert Ménard n'en est pas à son coup d'essai. En 2014, à peine arrivé à la mairie de Béziers, il met en place un couvre-feu pour les moins de 13 ans.
Moi, je n'aimerais pas que mes enfants soient dans la rue tout seuls parce que j'aurais peur pour eux. Et d'autre part, c'est vrai que quand ils sont en bande, ils peuvent faire peur aux gens.
Arrêt retoqué 4 ans plus tard par le Conseil d'État. Pas assez circonstancié, dit le juge administratif. Car si un maire a le droit d'exercer son pouvoir de police et donc de restreindre la liberté de circulation, il y a des règles, explique Nicolas Hervieux, professeur de droit public à Sciences Po.
D'abord que cette mesure soit strictement justifiée par des risques spécifiques de troubles à l'ordre public et strictement proportionnée. Proportionnée dans le temps, eu égard à l'âge des mineurs et proportionnée d'un point de vue géographique.
À Cagnes-sur-Mer, le maire a ainsi dû limiter son couvre-feu à la période estivale et à certains quartiers. La justice a validé le reste. C'était il y a 20 ans. Louis Nègre s'en félicite encore.
J'ai pris cet arrêté couvre-feu pour protéger des enfants, vu la défaillance parentale. Le dernier gosse qui a été interpellé, ça remonte à 2010, c'est-à-dire que les parents respectent eux aussi l'arrêté.
Ces arrêtés municipaux sont très nombreux, parfois flous, certains pourraient en théorie être illégaux, mais restent appliqués tant qu'ils ne sont pas attaqués en justice.
Le sort de Duralex devant le tribunal de commerce aujourd'hui, il devrait prononcer le placement en redressement judiciaire de la verrerie du Loiret, à qui l'on doit les mythiques verres avec le numéro au fond. 230 emplois sont en jeu, 3 ans après une précédente procédure, Duralex ne s'en sort plus à cause de la flambée des prix de l'énergie et de la baisse des ventes. On s'achemine donc bien vers un jeudi sans avion ou presque dans le ciel français. Grève massive des contrôleurs aériens demain. À ce stade, les autorités demandent l'annulation de 75% des vols à l'aéroport d'Orly, 65% à Roissy ou Marseille. Les syndicats d'aiguilleurs du ciel accentuent la pression pour réclamer plus de contreparties salariales à la réforme du contrôle aérien. On va vous expliquer ce qui bloque précisément dans le journal de 8h. Les représentants des EHPAD alertaient le gouvernement depuis plusieurs semaines sur l'état de leurs finances. 85% des établissements publics en déficit. Eh bien, la ministre déléguée aux personnes âgées leur répond avec l'annonce d'un plan d'aide de 650 millions d'euros. Un ballon d'oxygène, explique Fadila Katabi. Les dotations augmenteront de 3 à 5%. C'est bienvenu, mais ça ne réglera pas tout, selon Romain Gisolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées.
Ça va permettre, d'une part, d'absorber les déficits de l'année 2023. Deuxième élément, ça va permettre d'éviter de se séparer de professionnels, parce que les annonces d'augmentation que fait la ministre, c'est des augmentations sur ce qui s'appelle le budget soins, c'est-à-dire sur ce qui paye le personnel soignant. Mais il est clair que 5% sur la seule part du budget soins des établissements ne suffira pas à résoudre de façon durable, pérenne et a fortiori, ça ne fera pas pour l'État l'économie de ce débat autour de la loi Grand Âge qui est attendue depuis des années par le secteur, parce que la France devra investir dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, surtout quand nous savons l'évolution démographique annoncée d'ici 2030. Pour notre pays.
Romain Gisolme avec Alice Cachaner. L'épilogue ou un nouveau chapitre dans l'affaire Fillon? La Cour de cassation rend sa décision aujourd'hui sur les pourvois de François Fillon, de son épouse Pénélope et de son ancien suppléant contre leur condamnation pour emploi fictif. 4 ans de prison, dont un ferme pour l'ex-premier ministre. La Cour peut soit rejeter ses pourvois, confirmer les peines ou au contraire ordonner un nouveau procès.
Il est 7h39, il ne s'était pas revu depuis un demi-siècle.
Ouais, je vous emmène, Nicolas, dans Lyon pour ses retrouvailles entre une vingtaine d'anciens petits chanteurs à la Croix de Bois. Ils faisaient partie, dans les années 60, de la célèbre chorale avec laquelle ils ont fait à l'époque le tour de la planète. Aujourd'hui, sexagénaire, l'un d'entre eux a décidé de les réunir. C'est le reportage de Thierry Boulan, France Bleu Auxerre.
Le temps est loin de nos 20 ans.
Ce rendez-vous, c'est tout un pan de leur passé qui ressurgit, le plus fragile peut-être, celui de leur enfance. Gilles Daout a 66 ans.
Oui, il y a eu un choc émotionnel, effectivement, parce que ne pas s'être revu depuis plus de 50 ans, mais un très très bon choc.
Un vœu 1000 fois fait au cours de sa vie et enfin exaucé, Jean-Claude Lupard, 72 ans, a fait le voyage de Bangkok pour revoir ses camarades.
Pendant ces 50 ans, nous, on a, de notre côté, on avait des souvenirs. Donc, il nous est arrivé de feuilleter nos propres albums et à chaque fois se dire, bah tiens, ça serait bien qu'on se retrouve. Et puis, c'est enfin réalisé.
Ils ont rencontré ensemble le pape, de Gaulle et Pompidou, voyagé ensemble à travers une trentaine de pays, chanté ensemble dans les plus belles salles du monde, grandi tout simplement ensemble.
On a eu une vie extraordinaire.
Serge Trégouet, l'un des organisateurs de ces retrouvailles.
On voyageait 9 mois sur 12. Et puis alors on a chanté dans des endroits, par exemple dans une léproserie en Afrique. J'ai 69 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça vous marque un enfant quand vous en voyez d'autres qui sont malades et tout.
Cette histoire commune a tissé un lien indestructible entre eux et dès l'année prochaine, ils envisagent de se retrouver.
On l'a fêté.
Et bien plus âgés que ces retraités de la chorale, les super centenaires sont de plus en plus nombreux en France, révèle ce matin l'Institut National d'Études Démographiques. Hausse spectaculaire, dit même l'INED, on comptait l'an dernier 2000 Français de 105 ans et plus, surtout des Françaises d'ailleurs, ce sont essentiellement des femmes. Quant aux simples centenaires, ils sont eux plus de 30 000, 30 fois plus que dans les années 70, alors longue vie à ceux ou celle donc qui nous écoute.
Merci Alexis Morel. À suivre Yael Gauss, Dominique Seux, Sonia De Villers.